C'est 19 degrés sur Québec. Il fait super beau, c'est ensoleillé, maximum de 19. Donc, on a atteint le maximum pour aujourd'hui, Pascal. Quelques nuages pour ce qui est de ce soir avec un minimum de plus 3 degrés. Demain, mardi, ce sera des nuages avec des probabilités d'averse en après-midi à 30 %, un maximum de 20. Mercredi, une belle journée ensoleillée avec un maximum de 11. Jeudi, des nuages avec un maximum de 12. Et vendredi, ce sera de la pluie avec un maximum de 9. Vous êtes dans le show du midi. Mon nom, c'est Yann Marceau. Je t'accompagne jusqu'à 14 heures en compagnie de Pascal Caron-Vézina. C'est son nom complet. Vous avez des choses à nous dire, vous avez des choses à nous rapporter, vous êtes nos yeux, nos oreilles sur la route, ben c'est le 418-971-1021 par texto. C'est le revenant, c'est Nicolas Gagnon de la Fédération canadienne des contribuables qui est au bout du fil. Salut Nick.
Salut, ça va bien?
Ça va très bien. T'as-tu été voté?
Pas encore, c'est drôle. J'attendais justement la fin de notre entrevue pour me rendre au bureau de vote le plus proche. Donc, j'attends toujours la dernière minute, pour pas pour faire mon choix, mais juste parce que j'aime ça faire ça la journée même.
Bon,
j'allais voir de quoi ont l'air les files d'attente devant le bureau de vote.
Fait qu'il me reste encore...
Chacun ses passe-temps.
Il me reste encore un peu de temps te convaincre de voter pour le Parti vert.
Non, ben écoute, là-dessus, je peux te dire que mon idée est assez arrêtée déjà, peut-être sur le parti pour lequel j'ai voté, mais je regarde aussi beaucoup le candidat pour lequel j'ai voté aussi dans mon comté. Donc ça, j'invite beaucoup les gens qui sont pas tout à fait sûrs encore à regarder qui va les représenter pour les prochains mois ou années, tout dépendant si on se ramasse avec un gouvernement minoritaire ou majoritaire ce soir. Mais non, dans mon cas, bonne chance pour me convaincre de voter pour un parti vert. Ceci étant dit, je respecte toute personne qui, peu importe le vote, tant aussi longtemps que vous vous levez pour aller voter. Je pense que c'est ça le plus important aujourd'hui.
Ouais, tu vois, tantôt, j'ai demandé aux auditeurs, c'est quoi leur prédiction pour ce soir? Est-ce que ce sera un gouvernement conservateur, minoritaire, majoritaire ou un vote libéral, majoritaire ou minoritaire? Et ce que les auditeurs me disent, c'est que ce sera certainement, dans ce que les auditeurs disent, c'est pas un sondage scientifique, ce sera certainement un gouvernement minoritaire, mais là, ce qu'on s'entend pas là, par texto, c'est est-ce que ce sera conservateur ou parti libéral?
C'est drôle parce que j'ai entendu des projections assez différentes qui disaient que ça serait peut-être plutôt un gouvernement majoritaire ce soir, puis que ça va être plus clair que ce qu'on pense que ça va être. Moi, de mon côté, j'étais assez, je dirais que je chante deux chaises parce que d'une part, je vois les sondages, mais de l'autre côté, je vois aussi quand même qu'il y a beaucoup de mouvements depuis quelques temps. Donc, la dernière semaine, il y a toujours une ligne droite, puis il y a un réajustement des intentions de vote qui se fait. Donc, pour être très honnête, ça se peut qu'on se couche très tôt ou très tard ce soir selon l'endroit où est-ce qu'on vit au Canada. Puis d'après moi, on risque d'avoir vraiment le résultat complet, puis une image un peu plus complète là, en fait, du scénario avec lequel on va se retrouver pour les prochaines années ou prochains mois. Ben, pourquoi je dis ça? Parce que si c'est majoritaire, c'est 4 ans, donc on va dealer avec qu'est-ce que ça donne. Si c'est minoritaire, ben encore une fois, il y aura toujours cette possibilité que le gouvernement, dans 6 mois, dans un an, retourne, ben en fait, décide de dissoudre et qu'on retourne encore une fois voter. Donc ça reste une possibilité. J'espère qu'on se retrouvera. Moi, personnellement, je suis pas un fan des gouvernements minoritaires, mais d'un autre côté, ça permet parfois d'avoir un peu plus de latitude ou plutôt d'intégrer des promesses des autres partis dans le lot des coups des politiques qui vont être mis de l'avant. Donc, on a hâte de voir ce que ça va donner. Là.
C'est la question que Yannick, j'allais poser autant à Nicolas Gagnon de la Fédération canadienne des contribuables qu'à Jérémy et Guillaume qu'on va avoir tantôt en onde avec nous, analyste politique. Est-ce que dans la situation actuelle que l'on connaît au Canada, de la politique, des enjeux des États-Unis, on est mieux avec un gouvernement majoritaire ou minoritaire? Quel qu'il soit. Là, ce que j'entends de toi, Nicolas, c'est que tu penses qu'actuellement, ce serait peut-être mieux minoritaire?
Ben, il y a une partie de moi qui veut minoritaire parce que, comme je dis, c'est peut-être plus favorable de ne serait-ce que, justement, il n'y a pas juste un parti qui va avoir les deux mains sur le volant dans un contexte parce qu'on va entrer dans des négociations avec les États-Unis par rapport au contexte commercial qu'on connaît présentement. Donc, c'est sûr que minoritaire, ça permet autant aux partis de l'opposition comme, mettons, si jamais c'est les libéraux minoritaires, ben, les conservateurs pourront être à la table. Le Bloc québécois aussi, le NPD, bon, ce qui en restera selon les résultats. Mais dans tous les cas, c'est au moins, ça ramène un peu plus l'esprit démocratique de la chose. Mais il y a d'autres personnes qui pourraient dire que ce serait mieux que ce soit majoritaire pour donner des coups d'effrange au prochain gouvernement et s'assurer qu'il y ait toute la marge de manœuvre possible sans que quelqu'un vienne faire sauter les négociations ou peu importe. Donc, bien sûr, rendu là, on est quand même pas mal dans l'hypothétique. Ça dépend vraiment de ce qu'on espère. Mais tant qu'à moi, je fais partie aussi de ceux qui sont un peu déçus que les élections ont été un peu hijackées, en fait, là, par le sujet de la guerre commerciale avec les Américains parce qu'il y avait beaucoup d'enjeux qui n'ont pas été assez couvert à mes yeux durant les élections, que ce soit le coût de la vie, que ce soit l'abordabilité ou l'accès à une propriété, ou que ce soit même Sinon, la question de la dette nationale, ça, c'est tous des sujets que je trouve qui ont été à peine effleurés par rapport au contexte de la guerre commerciale. Et ça, ben, c'était pas très avantageux pour les partis de l'opposition, d'ailleurs. Donc, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Mais j'espère que les gens ont plus en tête là, de, comme enjeu que juste la question de ce qui se passe entre nous et les États-Unis présentement.
Il y avait encore des gens qui, je parlais hier, qui n'étaient pas décidés à savoir pour qui est-ce qu'ils allaient voter. Puis, curieusement, ils ont comme tendance à se fier sur les autres qui sont autour d'eux. C'est quand même paniquant là, quand tu sais, j'en ai pas eu une vingtaine là, de gens là, qui se sont adressés à moi pour me dire hey, Yann, pour qui je devrais voter? J'en ai pas eu une vingtaine, mais peut-être une dizaine, tiens. Puis je leur ai toute la gang dit faites vos devoirs. Allez faire un tour sur le site de Radio-Canada. Il y a la fameuse boussole électorale. Vous pouvez aller aussi sur les différents sites des partis, que ce soit le Parti libéral, le NPD, le Parti conservateur. Les plateformes sont là. Puis il y a de l'information. Il y a de l'information qui est là pour vous autres. Mais la boussole électorale peut aider pas mal bien des gens là, à savoir pour qui ils devraient voter aujourd'hui parce que c'est aligné avec vos valeurs. Là.
Ben, effectivement, là, on a plus vraiment les excuses qu'on avait auparavant de dire bon, on n'a pas reçu toutes les informations. Comme tu l'as mentionné, il y a non seulement le site de Radio-Canada qui a une boussole qui est quand même très intéressante et qui est quand même assez précise aussi. J'ai vu beaucoup de personnes tant à droite qu'à gauche partager leurs résultats puis être fiers de ça ou du moins se comparer. Puis ça permet d'avoir des discussions supplémentaires là-dessus. C'est sûr que d'un autre côté, je dirais que ça a été quand même une campagne électorale assez courte. Quand on y pense, c'était à quoi? À peu près 32-33 jours pour un pays qui est quand même gros comme le Canada. Donc, ça, c'est peut-être un enjeu qui va venir plus tard, à savoir est-ce que c'est normal qu'on ait des élections aussi courtes pour un pays aussi grand et quand même pour des enjeux qui sont aussi importants. Donc, ça a ajouté. Et parce qu'on y pense réellement, 33 jours pour une campagne dans 10 provinces, ça peine 3 jours par province avec les 3 territoires inclus là-dedans. Donc, ça laisse très peu de marge. Puis en plus, on se ramasse avec les fameux cadres financiers puis les plateformes qui ont été déposées dans la dernière semaine des élections, alors qu'on a à peine deux débats. Donc, je dirais que pour l'électeur moyen, peu importe où est-ce qu'on est positionné sur le spectre politique, on a quand même les droits de se dire, ben coudonc, est-ce que cette campagne-là était assez longue, est-ce qu'elle était assez, comment dire, complète pour qu'un électeur puisse se faire une tête puis aller voter en toute connaissance de cause.
Elle n'était pas assez complète. On peut se permettre de répondre qu'elle n'était pas assez complète parce que, justement, on a eu des enjeux qui n'arrivent pas normalement en campagne électorale sur lesquels on a dû se concentrer puis que c'était une priorité. Le hic aussi là-dedans, comme tu dis, la plateforme économique n'était pas déposée. C'est pas tout le monde, y compris nous, là. Ça nous tentait pas d'aller tout éplucher, là. Il a fallu le faire pour notre travail, mais si on avait pas travaillé à la radio, on l'aurait pas fait. Donc, les débats servent à ce moment-là, quand on entend les chefs de parti débattre financièrement parlant. Là, ça nous fait prendre part puis comprendre qu'est-ce qui est projeté pour le Canada, peut-être en ressources d'économie pour la suite des choses. Mais on n'a pas eu ça, là.
Ben non, on n'a pas eu ça. Puis en fait, je dirais même qu'on aurait dû avoir ça avant les débats. En fait, question que tout soit épluché par les journalistes et qu'on ait des questions pointues proposées aux chefs de parti durant les débats par rapport aux promesses qu'ils font. Parce que là, on les a vus débattre sur des grands enjeux avec des grandes lignes creuses. C'est quand même un peu plus intéressant, je dirais, dans la version anglaise où est-ce que on a eu droit à des débats un peu plus intéressants puis des face-à-face. Mais pour venir aux questions des promesses, c'est sûr que c'est pas monsieur et madame tout le monde, avec respect, qui va se plonger dans les cadres financiers. Puis même moi, j'ai trouvé ça plate comme exercice parce qu'à la fin, ça, même si je suis brillant de ça, il n'en reste que ce sont des projections, des scénarios, et tout ça aurait mérité d'être beaucoup plus questionné puis exposé au grand public pour que les gens puissent avoir une idée de dans quelle direction on s'en va une fois qu'on aura fait le choix, le choix aujourd'hui, ce 28 avril. Donc, effectivement, tout ça étant dit, c'était une campagne qui était très courte, puis aujourd'hui, on arrive à la conclusion. Donc, j'espère que pour ce que ça vaut, les gens ont été en mesure de se faire quand même une idée claire. Sinon, ben il reste encore quelques heures pour s'informer. Comme le dit Yannick tantôt, là, sur les sites web directement des partis politiques, il y a les grandes lignes des partis. Sinon, j'invite les gens à se rendre sur le site d'Élections Canada puis d'aller voir aussi les candidats. Parce que si vous ne voulez pas, vous ne votez pas pour Carney ou pour Poilievre, vous votez plutôt pour son candidat. Et ça, ben vous voulez savoir qui va vous représenter pour les prochaines années dans la Chambre des communes. Puis ça compte énormément, en fait, là, dans le processus démocratique. Donc, j'espère que ce sera pris en considération.
C'est weird, là, tu sais, on a un futur, ben un premier ministre du Canada et un futur peut-être premier ministre du Canada pour un deuxième mandat dans les prochaines heures. Puis le gars, avec son entreprise, est en train de poursuivre le gouvernement, donc de poursuivre l'Agence du revenu du Canada parce que l'Agence du revenu du Canada reproche à l'entreprise de Mark Carney d'avoir fait de l'évitement fiscal. Je veux dire, on est sur une autre planète. Puis toutes les mauvaises nouvelles qui ont été écrites sur Mark Carney, ça n'a pas fait changer l'aiguille du vote pour personne.
Effectivement. Et puis, il y a quand même plusieurs personnes que j'ai vues dans les dernières semaines s'insurger par rapport à l'appel téléphonique qu'il y aurait eu entre Carney et Trump, comme quoi, finalement, Trump n'aura pas tant respecté que ça la notion là, de souveraineté du Canada ou du fait qu'on n'acceptera pas d'être un 51e État. Fait qu'il y a quand même une partie de la campagne électorale qui, vraisemblablement, a été faite sur le dos de cet appel téléphonique-là. Mais finalement, on a reçu des détails décousus, des informations qui nous démontrent qu'au final, ben c'était pas exactement ce qui s'est dit. Donc, tout ça étant considéré, il y a eu quand même beaucoup de problèmes au niveau de la communication qui s'est faite entre les partis et les plateformes avec la population, puis surtout avec le contexte général de l'élection. Je pense que ça a été quand même assez dur à suivre au niveau de, des démarches du gouvernement. On se souvient, ne serait-ce qu'il y a un mois, à peine un mois, on savait pas trop quel tarif s'appliquait ou quand est-ce qu'il allait s'appliquer. Déjà, ça s'est venu aussi jouer pas mal dans l'élection comme telle. J'ai très hâte de voir les résultats tantôt parce que je veux pas, une fois que ça va être terminé, on va savoir si on en a assez pour les 4 prochaines années ou si on vient aux urnes dans un an ou dans 2 ans. Mais je pense que ça va être un vote qui va être très important à regarder aussi parce que je veux pas, le Canada va changer énormément par rapport à ce vote-là.
Quand, avec la Fédération canadienne des contribuables, bon, vous avez épluché les cadres financiers des différents partis. Quels sont les cadres financiers qui vous ont fait peut-être le plus peur?
Ben, ironiquement, vous allez être surpris de ce que je veux dire à l'instant, mais tous les cadres financiers qui ont été proposés par les partis politiques, que ce soit le NPD, les libéraux ou les conservateurs, sont tous plus dépensiers que ce que Trudeau avait prévu dans sa mise à jour économique à l'automne dernier, même les conservateurs. Donc, ça, c'est ma grande surprise. Ceci étant dit, de voir que Carney va aller beaucoup plus loin, parce que, je veux dire, sur les quatre prochaines années, Trudeau prévoyait de mettre 130 milliards de plus sur la dette du Canada avec ses dépenses excessives et donc les déficits qu'elle a accumulés au cours de cette période-là. Mais Carney, lui, il réussit à monter ça à 225 milliards de dollars. Donc, c'est une autre paire de manches. C'est plus de dettes. C'est quand même assez farfelu de voir le banquier dépenser encore plus que le comédien. Mais c'est exactement ce qui se passe dans ce cas-ci. Dans le cas des conservateurs, il y a au moins l'intention de réduire le déficit. Par contre, on a même à la fin d'un premier mandat, on sera encore dans le rouge. Donc, on voit qu'il y a un exercice qui est fait en ce sens, mais on reste encore très axé sur des dépenses. Donc, c'est quand même assez particulier parce qu'on s'attendait peut-être à avoir de quoi d'un peu plus coriace, d'avoir vraiment une plateforme qui nous dit non, on revient à l'équilibre budgétaire, pardon, en 4 ans. Finalement, ça n'aura pas lieu. Et de la part de Carney, il dit qu'on va revenir à l'équilibre budgétaire, mais ce qui me fait le plus sursauter, c'est la méthode qu'il veut faire. C'est qu'au lieu de réduire les dépenses de manière réelle et de couper dans le gras littéralement, il va plutôt diviser le budget en deux, entre des budgets de dépenses et des budgets d'investissement. Et donc, c'est comme ça qu'on arrive à équilibrer les finances publiques du Canada, selon lui. Donc, c'est de faire un petit tour de passe-passe comptable. Mais la réalité, c'est qu'on va dépenser encore plus en s'endettant encore plus et payer encore plus d'intérêts sur la dette qui va continuer à gonfler. Donc, dans tous les cas, c'est des cadres financiers extrêmement dépensiers, mais il ne faut pas se surprendre parce que dans un contexte d'élection, c'est très rare, même pour des conservateurs, d'arriver et de dire on va couper partout. Donc, il y a quand même une logique là-dedans, mais je salue l'effort de celui qui veut résoudre le déficit plutôt que de celui qui veut le gonfler. Il y a au moins ça.
Nicolas Gagnon, je te souhaite une bonne fin de campagne électorale. Là, on va savoir qui sera notre prochain gouvernement dans les prochaines heures. Puis va voter, va exercer ton droit de citoyen parce que certains pays, tu peux pas le faire, ça, voter.
Non, exactement. Puis ça, je le répéterai jamais assez. C'est vraiment le plus important, peu importe pour qui vous votez, que ce soit pour un politicien que vous voulez qu'il représente votre voix à la Chambre des communes ou sinon que ce soit pour en flusher un parce que vous croyez qu'il ne mérite pas un deuxième mandat ou même annuler votre vote s'il le faut, mais allez voter. C'est un privilège, c'est un droit puis c'est un pouvoir en tant que contribuable et en tant que citoyen.
Contribuable avec un S.ca, contribuable.ca, si vous voulez en savoir plus sur cette belle fédération. C'est toujours un plaisir de te parler. On te rejase la semaine prochaine, mon ami.
Avec grand plaisir. À bientôt.
Salut, Nick. Nous, on fait une courte pause, midi 51.
Marceau le midi.
Ce segment d'émission présenté par Pièces d'auto économique. Pièces d'auto économique, c'est des pièces neuves garanties, les meilleurs prix et des grandes marques comme Rebestos, Bosch et Mevotech. Pièces économiques.com.